Ben.
À la une, le Tavini qui exige de nouveau un dialogue avec l'État. La proposition de loi adoptée au Sénat qui élargit les compétences des communes. Et enfin, on terminera avec le trophée de l'amiral. C'est du va et du vélo et c'est ce week-end. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Les indépendantistes ont organisé une conférence de presse ce matin et le Tavini garde son cap.
Et compte bien le réaffirmer ce samedi en fin d'après-midi au parc Outouaraea pour l'anniversaire de la réinscription. 12 ans que le mouvement indépendantiste demande à l'État de tirer les conséquences de cette réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser et donc d'ouvrir un dialogue en vue d'un scrutin d'autodétermination. 12 ans d'échec puisque Paris a toujours refusé toute implication onusienne dans le dossier polynésien, à la différence du dossier calédonien. Oscar Temaru et Anthony Géraud-Selon l'ont redit ce matin, ils ne veulent pas répéter les erreurs de leurs frères de lutte kanak, ils ne veulent pas d'accord avec la France ou de statut aménagé, mais bien un échange à New York sur l'organisation de la décolonisation. C'était l'objet de la résolution votée par la majorité bleu-ciel de Talaoï en décembre. Et puis celui d'une lettre officiellement envoyée à Emmanuel Macron est resté sans réponse. Suivra un recours administratif, éventuellement des démarches auprès de la justice internationale, a rappelé le président de l'Assemblée ce matin. Anthony Géraud appelle l'État à appliquer enfin le droit avant, je cite, que cela ne soit la rue qui le demande, comme en Calédonie. Écoutez.
On est un mouvement pacifiste et puis on use de tous les moyens légaux pour pouvoir obtenir le droit de discuter avec la France sur l'avenir de ce pays, dans le cadre, bien entendu, des objectifs d'accession de ce pays à sa souveraineté. Or, le moyen légal, c'est justement le dialogue pour la réinscription de tous les pays qui sont sur cette liste vis-à-vis de leur puissance administrante pour commencer à parler de décolonisation. Et quand on aura parlé, évidemment, il y aura des éléments qui touchent à la décolonisation qui ne pourront pas avoir de réponse.
Et ils s'en ouvriront donc à la communauté internationale. Voilà le dialogue qui sera aussi demandé au séminaire du comité des 24 au Timor-Leste la semaine prochaine. Tony Géraud et Richard Touriava font le déplacement. Pour la première fois, des autonomistes menés par Moetei Frebo seront aussi de la partie. Pas de problème pour le Tavini qui prévient quand même que les discours pro-coloniaux seront mal reçus dans ce comité spécialisé sur la décolonisation. Rien n'indique en revanche que Paris profite de la réunion pour changer de ligne et pour les bleus-ciels, les discours d'ouverture de Manuel Valls n'y changeront rien. Demander pardon grandirait la France, a déclaré le ministre des Outre-mer lors de son audition devant la commission d'enquête sur le nucléaire. Oui, mais ce pardon, plusieurs fois évoqué, a toujours été refusé par les chefs d'État, rétorque Oscar Temaru. Et ce n'est pas une fin en soi pour le leader indépendantiste. Il ne faut pas prêter attention à ces gesticulations parisiennes.
Je ne sais pas s'il faut croire à tout ça. Je préfère croire Ouzel. Lui, il a travaillé là-dedans. Il sait de quoi il parle. Venant d'ailleurs du gouvernement, ça va être des choses qui vont être dites à moitié, pas ça. Il l'a fait, il l'a dit. D'ailleurs, il a été lynché par ses copains. Mais c'est dommage qu'il soit parti un peu tôt. On va faire samedi, là, pour rappeler sa mémoire. Ça va faire à Paris.
Voilà, le Ouzel en question, c'est Ghislain Ouzel, un ancien ingénieur du commissariat à l'énergie atomique qui a assisté et participé à 120 essais atomiques. Il était venu à la rencontre d'Oscar Temaru il y a quelques années pour demander pardon et le féliciter pour sa lutte contre le nucléaire. Son discours en avait fait un paria au sein des anciens du CEA, explique le Tavini. Il a été lynché par ses collègues. Ghislain Ouzel, qui est décédé l'année dernière, sera honoré par une plaque commémorative qui sera installée au parc Outouaraea ce samedi.
Le Sénat a adopté l'élargissement des compétences des communes.
Première victoire pour les communes qui avaient toutes soutenu, sauf à la proposition des sénateurs. La proposition de loi de Lana Tetuanui et Tevaro Fritsch pour permettre aux maires d'exercer des compétences du pays sans devoir passer par une loi du pays a été adoptée à l'unanimité en fin d'après-midi heure française. Il s'agissait, ont répété les sénateurs de Paris à Papeete, de mettre le droit en conformité avec la réalité et de protéger juridiquement les Tavanas. Ils sont parfois forcés par l'éloignement ou l'urgence d'agir dans certaines matières alors qu'elles relèvent normalement de compétences du pays. Le gouvernement Broverson avait exprimé son opposition à cet élargissement, inquiet que les maires choisissent des actions en contradiction avec le cap fixé par le gouvernement. Il y a eu quelques modifications sur le texte originel. On écoute les explications de Tevaro Fritsch.
Le texte maintenant qui a été modifié donc prévoit que les communes, si elles veulent agir, doivent prévenir le pays, prévenir le commissaire évidemment. Et il y a un délai de 6 mois avant la mise en œuvre de l'action qui permet de conclure conclure ou pas d'ailleurs une convention avec le pays, si le pays le souhaite, et si la commune le souhaite, pour pouvoir obtenir des moyens financiers. Mais si le pays ne le souhaite pas, la commune, au bout de 6 mois, pourra faire son action en toute liberté.
Lana Tetouanoui et Teva Rofritch attendent maintenant l'inscription du texte à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Ils espèrent que ce sera fait avant la fin de l'année.
Et on continue avec ces interviews, c'est le président du pays lui-même qui interroge ses ministres.
Eh oui, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Moetei Broverson doit être convaincu par cette expression car il a inauguré lundi soir une série d'entretiens filmés avec ses ministres, diffusés ensuite sur les réseaux sociaux sous le titre « Entre nous ». Premier à s'y coller, le ministre de l'économie et des finances, Warren Dexter. Une première interview avec pour toile de fond la lutte contre la vie chère. Il mènera le toilettage de la TDL, même si les accords sont durs à trouver avec le patronat. Ça doit être assez sportif à gérer, dit le président. Comme tu dis, répond le ministre.
Il y a des intérêts très différents d'un opérateur à l'autre. Des intérêts effectivement très contrastés entre les importateurs et les distributeurs. Et là, je suis au milieu effectivement actuellement. C'est les pourparlers piétinent un petit peu parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des terrains d'entente. Et bon, sous couvert de concertation, j'ai envie de dire qu'au bout d'un moment, je vais être obligé de passer en force pour choisir une solution qui soit un compromis entre eux tous parce que sinon on ne va pas y arriver. C'est compliqué.
Et ils ont aussi parlé marge et PPN. Objectif, réduire cette liste des PPN, éviter les effets pervers comme l'augmentation d'autres produits en magasin. Ils ont parlé aussi de la TVA sur les produits sucrés. Pas question de revenir dessus. Il y a de l'inflation, mais c'est une question de santé publique et le pays compte sur la recette fiscale attendue. Et puis ne pas réduire la fiscalité, c'est important aussi pour financer les services publics.
On parle aussi de la masse de 35 milliards de fonctionnaires. Tout le monde voudrait la baisser, c'est bien. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il faut baisser la voilure du service public dans ce pays? Est-ce qu'il ne faudra pas simplement garder cette voilure et améliorer la performance du service public au service des Polynésiens? Je ne suis pas convaincu qu'il faille nécessairement baisser drastiquement le poids de l'action publique dans l'économie.
Le format de l'administration tel qu'il existe aujourd'hui, le réduire, ce n'est pas évident. C'est peut-être un mauvais service à rendre à notre population.
Mais un service public de qualité, c'est vrai qu'on pêche là-dessus.
Ouais.
Bien. Voilà, le président du pays et le ministre de l'économie en mode interview, mais bien sûr sans question qui fâche, ni personne pour les contredire. Prochain numéro de cette série pédagogique d'ici une semaine, ce sera avec la ministre du Travail et de la Fonction publique, Vanina Krolla, des causeries filmées qui pourraient aussi être proposées en Réo Tahiti.
En bref aussi, un homme a été retrouvé mort à Paea.
Ce sont les voisins qui ont alerté les services de secours, gênés par l'odeur. L'homme était âgé de 68 ans et sa mort remonterait à 3 jours, selon nos confrères de Polynésie la Première. Il précise que sa mort serait naturelle.
Et on part en mer pour aller observer les baleines.
Eh bien non, on va bien observer les baleines, mais on reste à terre. C'est la nouveauté proposée par l'association Oceania. Plus besoin d'aller sur l'eau pour voir les cétacés. 8 sites situés sur le littoral donc vont ouvrir à Moorea. Ce sera le circuit Honotei ou connexion à l'océan. On écoute la directrice d'Oceania, Marie-Lou Bontemps.
Le principe, c'est en fait un parcours tout autour de l'île avec des panneaux différents qui vont décrire du coup les espèces qui sont observables, comment les reconnaître, avec un aspect aussi culturel, soit une légende autour de ces espèces ou le lien des Polynésiens avec l'océan et les cétacés. Pour l'instant, donc, il y a 2 sites où il y a déjà des panneaux qui sont installés. C'est des sites privés sur lesquels on est partenaire avec les institutions. Donc c'est le Manawa et Captain Taina.
2 sites privés donc pour commencer, mais bientôt des sites publics financés grâce au fonds Polynétia de la FAPE et à la plateforme de dons de Tahiti Tourisme. Un premier va être ouvert au belvédère de Toatea au-dessus de Sofitel, déjà connu par les amateurs de belles vues. Et puis d'autres endroits plus confidentiels, mais tout aussi appropriés tout autour de l'île. Car oui, c'est possible d'avoir une jolie vue sur les baleines sans mettre un pied dans l'eau.
C'est le cas en fait tout autour de l'île, c'est juste qu'on n'en a pas conscience. Et après, sinon, ce sera surtout des sites en fait bord de route où il y a des passes, où le récif est assez proche de la côte pour une observation optimale. Enfin, de base, on voulait faire ce projet sur Tahiti et Moorea la même année, mais c'est un petit peu compliqué en termes d'administratif. On a commencé par Moorea parce que c'est en plus une île qui est quand même très concernée par le whale-watching. L'année prochaine, on compte le faire sur Tahiti, vraiment tout autour jusqu'à la presqu'île. On envisage aussi sur Rurutu par exemple, Nuku'iwa pour les autres espèces de cétacés. Et il y a des points d'observation depuis la Terre, donc on compte aussi mettre des panneaux là-bas. Et dans les Tuamotu aussi, ce sera en partenariat avec les communes.
L'idée est de proposer une découverte de ces animaux, les baleines mais aussi les dauphins ou les globicéphales que l'on peut voir donc depuis la côte et aussi d'avoir moins de monde dans l'eau et donc moins de pression sur ces animaux.
Et on reste dans l'actualité maritime, Lucie, avec les conclusions du CESEC sur le développement durable de notre océan.
Et oui, quel avenir pour Temo Ananui à Hiva? C'était pour répondre à cette question que le CESEC avait fait cette auto-saisine sur le développement durable de notre océan et de notre patrimoine marin. Et pour la 4e institution du pays, utiliser les technologies modernes, tout tout en s'appuyant sur les savoir-faire culturels comme le raoui, est l'unique voie pour pérenniser les ressources marines. Et pour y arriver, le CESEC a déterminé une feuille de route composée de 8 axes. On y trouve les aires marines éducatives, la création d'un lycée de la mer, l'interdiction des DCP dans les eaux internationales, la création d'une loi littorale, l'accélération de la recherche sur les fonds marins, mieux les connaître, c'est pour mieux les protéger, l'extension du raoui à tout le Pacifique, le développement des technologies innovantes comme le SWAC, l'énergie thermique des mers ou encore le déploiement rapide du projet MAEWA ou Marine Heat Waves, un projet qui vise à mieux comprendre les menaces que représentent les canicules marines. 8 axes donc pour transformer les défis climatiques et écologiques en opportunités durables. Un rapport qui arrive à quelques semaines de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui va se tenir à Nice. Ce sera du 9 au 13 juin et 5 conseillers du CESEC doivent d'ailleurs s'y rendre.
Allez, place aux paillettes maintenant dans ce journal. On continue la présentation des candidates pour l'élection de Miss Tahiti.
Allez, la numéro 9 aujourd'hui, Joadan Adams. C'est la doyenne de la promotion 2025 avec ses 30 ans. Elle a longtemps été encouragée à suivre les traces de sa sœur aînée, Rei Poe, élue Miss Tahiti en 2004. Elle ne s'était jamais sentie prête pour suivre ses traces. Mais cette année, avec la modification de l'âge limite pour participer au concours, elle s'est dit c'est maintenant ou jamais. Et elle est bien décidée à défendre sa personnalité avant tout.
Suite à la conférence de presse, je me suis renfermée sur moi-même. Le regard des autres qui, je pensais, n'allait pas m'impacter m'a beaucoup affectée. J'arrivais plus à m'exprimer, je savais plus quoi montrer de ma personnalité. Et là, petit à petit, je commence à me lâcher. Grâce à Radio 1 et Thierry FM d'ailleurs. C'était vraiment un moment détente et ça m'a permis de me dévoiler un peu plus. Parce que sur les réseaux sociaux, je suis assez silencieuse en ce moment. On va dire qu'aujourd'hui, ça a été le départ pour moi pour me dévoiler un peu plus.
Allez, rendez-vous le 31 mai pour la soirée de gala placée sous le signe de l'artisanat et puis le 27 juin pour la grande soirée d'élection à la mairie de Pirée.
Et on termine avec la 22e édition du trophée de l'amiral. La compétition prend une toute nouvelle dimension.
Et oui, à la traditionnelle course de Vaha organisée